ne reconnaît et ne subventionne aucun culte, mais qui paradoxalement se prononce quand même pour la liberté de culte, donc c'est qu'il le reconnaît, puisque, ou alors il reconnaît quelque chose qu'il ne reconnaît pas, donc c'est pas possible. Donc par conséquent, s'il ne s'oppose pas à la création, s'il ne s'oppose pas à la liberté du culte, c'est donc qu'il reconnaît une religion et qu'il en donne même la définition, puisque par la suite, on reconnaît comme religion quelque chose, une pratique qui est métaphysique et qui est culturellement admise. Donc là, on a la coutume qui rentre de plein fouet. On a voulu faire cette distinction pour lutter en fait contre les phénomènes sectaires qui effectivement se prétendaient religion mais n'avaient rien à faire avec la religion et étaient surtout attaqués pénalement avec cette façon de pouvoir effectivement lutter contre le sectarisme. Donc faire la distinguo entre la religion et les sectes était fondamental. Donc apporter une définition à la religion était fondamental. Donc on ne peut pas dire que l'État ne reconnaît pas la religion puisqu'il lui donne une définition et qu'il la protège en plus puisqu'il protège l'exercice du culte. On l'a vu tout à l'heure avec Madame Alavi qui a bien marqué que le droit pouvait effectivement ne pas contraindre la conversion, par exemple, au sein même de famille. Ça pour dire qu'effectivement, c'est un des effets du gallicanisme. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que cette loi de 1905 qui sépare l'Église et l'État, mais qui en même temps renvoie au spirituel et au temporel l'autorité, renvoie le spirituel et le temporel, à l'autorité pontificale, sauf en Alsace-Moselle. Qu'est-ce que finalement cette loi qui permet à chaque culte de pouvoir s'exercer avec la coutume en ligne de mire, puisque la coutume permet de faire sonner les cloches, par exemple, ça c'est quelque chose qui est important dans les dispositions de la loi 1905, puisqu'elle accorde quand même une place privilégiée à la religion catholique. Alors elle ne le dit pas expressément, mais lorsqu'elle renvoie par exemple la sonnerie des cloches aux arrêtés municipaux, donc à la possibilité au maire de pouvoir interdire ou autoriser la sonnerie des cloches pour l'appel à l'office, elle signifie par là que elle demande simplement quelle est la coutume qui se pratique dans telle ou telle région. Est-ce qu'on a l'habitude d'entendre les cloches sonner? Si oui, elles vont donc continuer de sonner pour l'office. Ce qui veut dire que le jour où il y aura un minaret, il y a peu de minarets en France, je crois qu'il doit y en avoir une centaine de mosquées avec minarets, hein, je crois, pas, j'ai pas. Moins que ça, d'accord, moins que ça. J'avais le chiffre de 200 à peu près, il doit y en avoir peut-être effectivement un petit peu moins. Et bien le jour où on souhaitera faire un appel à la prière, les fidèles musulmans souhaiteront qu'un muezzin, pardon pour cette prononciation hein, qui est peu académique, c'est juste, hein, merci. Donc un muezzin fera l'appel à la prière, eh bien il aura le droit de le faire. Rien n'interdit en France qu'il le fasse. Simplement, il faudra qu'il demande au maire l'autorisation de pouvoir le faire. Le maire pourra l'interdire avec le seul motif qu'il peut y avoir un trouble à l'ordre public. Il est bien évident qu'au lendemain d'un attentat, c'est peut-être pas le moment de le demander. Il y a des moments un peu plus propices pour ça. Mais en tout cas, c'est possible. Le droit français l'y autorise. Donc cette loi de 1905, finalement, connaît bien des aménagements et des paradoxes compte tenu de l'histoire religieuse de la France et compte tenu aussi de ce principe de laïcité qui semble être déjà contenu dans le christianisme. D'accord. Je vais passer rapidement donc, sur certains points que je souhaitais évoquer pour voir du côté du catholique et de la citoyenneté, on l'a déjà abordé tout à l'heure. Quel est son point de vue donc, sur les lois? On l'a vu tout à l'heure, hein, il y a effectivement pour lui une partie prenante dans l'exercice du droit civil, puisqu'il est citoyen autant qu'il est catholique, même s'il est un peu plus catholique que citoyen, très certainement. Mais en tout cas, le pape lui-même, Benoît XVI, dans une allocution, a encouragé les catholiques à s'engager dans la vie publique, dans la citoyenneté, non pas pour apporter un prosélytisme, il ne s'agit pas de témoins de l'évangile, parce que si on est chrétien, vous qui êtes croyants en tant que musulmans, je pense que nous avons le même ressenti, c'est-à-dire qu'on n'abandonne pas sa foi comme ça parce qu'on rentre dans un lieu qui est laïque ou profane. On est croyant ou on ne l'est pas, hein, ou alors on est schizophrène, à ce moment-là, là ça relève de la psychiatrie, mais ce n'est pas le sujet, je pense, de la conférence. Donc cet engagement du citoyen est en train d'être posé avec acuité, il s'est posé avec la question du mariage pour tous, et il se pose maintenant avec un autre sujet qui est celui des migrants. Le pape François a déclenché il y a environ un an une tempête de l'anderno catholique en demandant à chaque paroisse d'accueillir des migrants, de faire face, en fait, en demandant aux catholiques, en tant que citoyens, d'avoir une responsabilité vis-à-vis des vagues migratoires qui, je ne vais pas dire submerger l'Europe, parce que là, ça fait un petit peu, ça fait un peu invasion, mais disons qui effectivement, l'Europe a été confrontée effectivement à une vague de migration particulièrement importante auquel il a fallu qu'elle fasse face. Et les chrétiens ont donc dû s'engager, à la demande du pape lui-même, les catholiques, à accueillir des migrants et à prêcher en fait pour l'accueil des migrants, ce qui rentrait en contradiction avec toute une frange de la population chrétienne qui, et bon, on peut comprendre aussi, souhaite conserver l'identité. On parlait d'identité tout à l'heure, on voyait combien cette question de laïcité et de religion est liée à l'identité, qui disait, mais le pape, finalement, est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que le pape, qui est censé défendre la chrétienté, chrétienté qui est un concept à la fois politique et théologique, le pape qui est censé défendre la chrétienté souhaite accueillir des migrants musulmans sur les terres européennes au risque de détruire cette même identité chrétienne. Et c'est là que se sont affrontés les catholiques sur cette question d'identité. Est-ce que l'universalisme du catholicisme doit s'accommoder, doit passer outre ou au-delà de la question de l'identité chrétienne d'un pays? Est-ce que finalement, quand on est universaliste et catholique, est-ce qu'on doit vraiment s'enfermer dans les contingences identitaires d'un pays, fût-il évidemment chrétien? Ou est-ce qu'au contraire, on doit plutôt privilégier, dans une vision peut-être gallicane, et là on rejoint ce fameux gallicanisme, est-ce qu'on doit au contraire protéger cette civilisation chrétienne qui existe depuis, alors je ne vais pas dire 2000 ans en Gaule, mais 500 ans à peu près, hein, on va voir le baptême, enfin, on le situe au baptême de Clovis, ou est-ce qu'au contraire on doit continuer à être des gallicans dans un monde de plus en plus ouvert à la mondialisation? Donc il y a eu ce véritable enjeu qui est allé au-delà du religieux, puisqu'il rejoint le politique, avec évidemment des consignes de vote pour différents partis. Soyez ouverts, ou au contraire, repliez-vous vers votre identité chrétienne, au risque effectivement de ne plus être tout à fait œcuménique et de ne plus être tout à fait dans ce catholicisme papal qui a longtemps été l'apanage de la primauté romaine. Voilà, je conclurai donc très rapidement de cette façon, en espérant avoir été claire dans mes propos et d'avoir soulevé quelques questions, en tout cas de vous avoir donné quelques clés pour pouvoir mieux comprendre peut-être le catholique le laïque et le juridique. Voilà, pour faire les rimes. Merci. Merci.
Merci à Madame Poussard qui nous a vraiment présenté le rôle des catholiques français face au droit et à la citoyenneté. Et on aperçoit ensemble que nos frères chrétiens, nos concitoyens chrétiens, vivent la même problématique face à la laïcité. Alors, la question religieuse, elle est posée aujourd'hui. Face à des laïcs, ou face à la construction, face à la République, ou face à la nation. Donc, aujourd'hui, on pose la question. Même dans le débat présidentiel, on voit vraiment qu'il se cache derrière presque chaque prétendant à la présidentielle un fond. Est-ce qu'il est avec la question religieuse ou contre la question religieuse? On voit la souffrance d'un Fillon, qu'on l'accuse qu'il est trop chrétien, ou à gauche, des gens qui se présentent, je ne dis pas anti-religion, mais défenseurs de la laïcité. Réellement, nous, les musulmans, on a souffert depuis 3 décennies sur cette question. Pourquoi maintenant? Parce qu'on n'est plus visible. On n'est plus visible dans l'espace public. Ça pose des questions. Malheureusement, en tant que musulmans, le débat à l'intérieur de notre communauté, il est fermé. Il n'est pas ouvert. C'est-à-dire, on a un débat clos parce qu'il y a une invasion du salafisme, takfirisme dans la société française et dans la société européenne. Donc, à nous, musulmans européens, aussi de faire la distinction entre notre appartenance religieuse et notre appartenance de citoyen. Et le débat aujourd'hui ouvre, nous ici à l'université, comme M. Mami l'a présenté, on tient à ouvrir ce débat, c'est un débat d'idées, on ne fait pas des cours ici copier-coller, on est ici pour faire de la recherche, pour poser des questions. Peut-être on n'a pas toutes les réponses, mais on pose les questions. Et aujourd'hui, la question de l'islam en France, elle est posée. La question des musulmans en Europe, elle est posée. Aujourd'hui, on est accusé d'être des terroristes, virtuellement terroristes, parce que nous sommes musulmans. À nous de répondre par le droit, par la citoyenneté, par le dialogue. Donc j'aimerais bien que ce soir, le débat soit riche avec Madame Alavi et Madame Pinsard, mais aussi avec les autres professeurs éminents qui sont dans la salle. Merci à vous et salawat. J'ouvre le débat, Saïd Hakim.
Très riche dans ce que vous avez dit. Je ne vais pas être très long parce que vous pouvez donner l'occasion à d'autres pour intervenir. Seulement, je remarque quelque chose au début, que d'après l'exposé de Mme Pinsard, donc vous avez commencé par rendre ce qui est à César ce qui est dû à Dieu. Et on constate bien dans toute l'histoire humaine, c'est que César tente de s'emparer, toujours de s'emparer de ce qui est à Dieu, c'est-à-dire il ne se nie pas ce qu'il a. Et tout ce que vous avez exposé à fait, ça montre comment César, il ne laisse pas de domaine libre pour l'individu. Par contre, dans ce que vous avez dit, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un résidu de l'antichristianisme qui était au début de la Révolution française. On s'acharnait contre Jésus, contre Marie. Et malgré que maintenant, ceux qui, par exemple, pour le mariage, ceux qui trahissent le mariage en premier, ce sont des chefs. C'est-à-dire, ils ne se marient pas. Il casse le mariage, il y a beaucoup de célibataires, et d'un autre côté, il y a un autre ennemi de la vie religieuse, que ce soit au début chez les chrétiens occidentaux en général, et ça commence à aussi entrer dans les sociétés islamiques, c'est le matérialisme, c'est-à-dire on est de face à des chrétiens qui gardent des fois seulement quelques traditions, mais dans le fond ils ne sont plus ni chrétiens et beaucoup ne sont plus musulmans même. Ils sont musulmans dans quelques détails. Par contre, l'indifférence de ceux qui prennent le pouvoir vis-à-vis de la souffrance de quelqu'un qui est croyant. Donc, ils ne voient pas ce qu'ils causent pour l'autre, parce qu'ils n'essaient jamais de le vivre. Et ceux aussi qui souffrent, ils n'ont pas toujours le moyen de s'exprimer ou de passer leur voix à ceux qui dirigent. D'un autre côté, à propos du... Dernièrement, j'ai vu, parce que là, il faut s'attendre au pire, là. Dernièrement, j'ai vu, c'était dans un pays nordique, je pense en Norvège, on a autorisé le mariage entre une dame et un chien. Et moi, je m'attends à ça dans quelques décennies, ça va arriver, parce que de plus en plus. Vous savez, c'est la loi, c'est connu, le trop de plaisir, on s'ennuie, on cherche à renouveler, à avoir plus de plaisir. Et d'un côté, quand on défie une loi ou une nature humaine, vous avez parlé bien de dire qu'il y a dans toutes les lois, il y a une partie, c'est la régulation intérieure. La régulation extérieure, la régulation intérieure. On trouve ça dans les lois. Par contre, là, de plus en plus, celui qui défie la loi naturelle, il a tendance à aller de pire en pire après. Et comme ces gens-là, ils dirigent, on a relativisé les valeurs en général, donc la porte s'ouvre à plein d'écarts à l'égard de cette loi naturelle.
La question, c'est le Hakim.
Donc voilà, donc, c'était pour dire que est-ce qu'il y a un effort, parce que là, il faut dire à ces gens-là, quand ils s'opposent au mariage chrétien, au mariage religieux musulman, il faut leur dire que vous menacez le mariage civil plus que les autres. Malgré que le mariage civil est une copie pâle du mariage religieux. L'État ne peut pas entrer à l'intérieur de la personne humaine comme celui qui croit, il est en face de Dieu. Et d'un autre côté, on ne cesse que changer les lois du mariage en général ici. Quand c'est, par exemple, je pose la question, par exemple, il y a la trahison conjugale. Comme beaucoup des chefs, ils ont ce problème-là, ils ont fini par dire que la trahison conjugale, c'est rien du tout.
Merci.
Et c'est, voilà.
Merci. Ah.
Merci.
Mais juste si vous pouvez répondre à ce détail-là, c'est-à-dire le résidu, c'est pour ça.
Bonsoir, super, bonsoir. Merci, mesdames, de vos exposés, qui ont été extrêmement enrichissants. J'aimerais juste faire quelques points d'histoire en quatre points, très brièvement, pour relancer le débat. Tout d'abord, pour dire la chose suivante, et la rappeler, c'est que le droit n'a pas été l'apanage de la religion monothéiste, hein, et que, pour ceux qui sont parisiens, ils peuvent aller au Louvre et constater qu'il existe une stèle, celle de Hammurabi, hein, qui énonce des textes de loi et qui date d'une civilisation pré-babylonienne, qui date de 1750 avant Jésus-Christ. Et qui a l'importance suivante, c'est que, effectivement, émanant d'une instance qui est à la limite effectivement supra-humaine, les humains entre eux n'allaient pas arranger leurs affaires, mais il existe une instance extérieure à eux qui est un droit qui peut leur être opposé, et on n'est pas réduit à un simple vendetta, et le droit n'est plus uniquement privé entre individus. Il y a une instance extérieure qui légifère et qui énonce des règles de conduite, de punition, etc., en cas de problème avec le respect de la loi. Premier point. Deuxième point, vous avez parlé de César, qui va lui rendre sa pièce ou sa monnaie, je ne sais quoi. Alors, j'aimerais rappeler, parce que ce n'est pas très très bien su, cette affaire-là, c'est que, indépendamment du fait que la Palestine, même ayant été des royaumes, a toujours été sous domination soit pharaonique, soit justement de ces empires chaldéens, et ultérieurement de l'empire romain ou grec d'ailleurs. Cette histoire de rendre la monnaie César à César, il y a le fait que, sous l'empire romain, donc, les juifs étaient exemptés d'un impôt parce qu'ils ne participaient pas au sacrifice qui était dû aux dieux reconnus dans le panthéon du droit romain. Mais ils avaient leur propre divinité, et donc ils versaient leur dîme religieuse au rabbin, lequel rabbin était roi, et la prêtrise de rabbinat était donc héréditaire. Donc, quand vous dites non, je ne pose pas de questions, je vais juste rappeler quelques points d'histoire, pour rappeler rapidement. Troisième point,
même quand la Révolution française a eu lieu, alors que ça n'a pu avoir lieu que dans un contexte de déchristianisation, je voudrais rappeler tout de même que Robespierre avait fait des défilés en l'honneur de ce qu'il appelait l'être suprême. Donc même en désacralisant la République et le lien social, il revient d'une façon. Donc ça c'est jamais vraiment disparu. Quatrième point, pour ce qui concerne la loi de 1905, elle est venue à un moment précis de l'histoire. Et pourquoi est-elle venue à ce moment-là? C'est parce que à l'Église étaient dévolues deux fonctions au cours de cette histoire de ce pays, deux fonctions importantes. C'était la charité et l'école. Parce que l'Église avait des biens, et à l'Église, on reversait une dîme. Et l'Église reversait, donc faisait fonction de société de bienfaisance. Cette fonction n'existait plus. Il fallait que l'école soit séparée de l'enseignement religieux. C'est pour ça que ça a eu lieu. Et il est évident que lorsqu'il a été manipulé ultérieurement et récemment à partir de 1989, c'est une manipulation complète de cette loi de 1905. On lui fait dire ce qu'elle ne disait pas à l'époque. La neutralité de l'État n'implique absolument pas de discriminer certains en raison de leur religion. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. D'accord ? Et plus récemment, cette fameuse cour de l'Union européenne de Luxembourg qui dit que qui intervient sur le droit du travail et qui dit qu'effectivement, même dans la société privée, eh bien, n'importe quel entrepreneur peut décider d'interdire, finalement, d'une façon, l'expression d'une liberté religieuse, ce qui est une pure contradiction. Donc la question qu'on pose, c'est d'abord, est-ce qu'il y a une instance au-dessus, parce qu'on parlait du système pyramidal et d'une instance juridique au-dessus d'une autre? Qu'y a-t-il après la Cour de l'Union européenne? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un recours contre ce type de loi, par exemple? Parce qu'elle est contradictoire avec le fait de la liberté qui est posée quand même au niveau constitutionnel.
Merci.
Et il y a contradiction dans les termes de ce droit.
Merci.
Merci. Merci beaucoup.
Merci. On étudie un peu le droit des religions. C'est-à-dire, le très peu que je connais en droit de religion, lors de l'application de la loi 1901 et la loi 1905, les chrétiens et les juifs ont vécu exactement ce que les musulmans sont en train de vivre aujourd'hui. Donc ce n'est pas un problème de loi, de cette loi, un problème anti-islamique ou quelque chose comme ça. Bon, ça veut dire... Nous, par exemple, aujourd'hui, le problème des musulmans, l'efficacité des musulmans n'est pas, ça veut dire, ils n'arrivent pas à utiliser bien les lois, tout simplement. Secondo, ça veut dire le problème de religion, de l'application des lois entre la religion et l'État, c'est le problème de l'application de la laïcité. C'est ça le gros problème aujourd'hui en France, c'est le problème de la laïcité. Je rappelle par exemple le Jean Bobiro, qui est le président du groupe GSRL de religion, groupe société religion. Ça veut dire en 2012, à l'école normale, sur la laïcité, le congrès sur la laïcité, ça veut dire qu'il a dit que, en termes, c'est le président du groupe, ça veut dire qu'il étudie, ça veut dire pour l'État, ça veut dire c'est. Il dit que. Le ministère de l'Intérieur, il a sa propre laïcité. Le ministère de la Santé, il a une autre laïcité. Le ministère de la Justice, il a une autre laïcité. Donc, on n'arrive pas, ça veut dire, de l'éducation aussi, une laïcité. Donc, c'est le problème de la laïcité. Ça veut dire, je rappelle uniquement, ça veut dire, c'est un petit rappel. Ça veut dire, lorsque à l'époque, en 1905, lorsque... la loi de 1905, un groupe de ulama, de musulmans, ça veut dire algériens, sont venus ici à Paris au Sénat, pour dire qu'il faut appliquer cette laïcité en Algérie. Or, elle n'a jamais été appliquée, la laïcité n'a jamais été appliquée, la laïcité en Algérie. Donc aujourd'hui, on voit, ça veut dire que c'est une laïcité laïcisante, c'est une laïcité qui devient philosophique, ça veut dire qu'elle a dépassé les normes. Or, l'application pure et simple de la laïcité qui règle le problème. Ça, voilà, c'est ça, d'accord. Okay, d'accord.
Donc, j'ai essayé d'être brève. Voilà, 5 minutes. Non, là, il y en a plus deux. Donc, alors, la première chose, voilà, alors je vais répondre à madame, voilà, sur la loi de 1905, et la dureté de son application. Effectivement, vous avez raison de rappeler que la loi de 1905 s'est faite dans un contexte particulièrement hostile, alors pas au christianisme en général, mais au catholicisme en particulier, et de effectivement le pouvoir. Peut-être un peu surévalué, qu'on lui a donné dans la société. Et en particulier, c'était se placer en concurrence avec l'Église. Pour l'État, c'était se placer en concurrence avec l'Église pour la formation des esprits. Vous avez raison de souligner qu'effectivement, l'éducation était un des enjeux majeurs de la Troisième République. Hein. On sait que Jules Ferry, l'école primaire, gratuite, laïque, obligatoire, effectivement, était l'un des grands enjeux. L'idée était de soustraire, effectivement, l'éducation, l'enseignement dès l'école primaire, et surtout à l'école primaire, où il y avait la majorité, en fait, des écoliers. En secondaire, c'était un peu différent, il y avait moins d'accessibilité. Et ça a commencé par une véritable purge, purge dans tous les sens du terme, hein, une société violemment anticléricale, anti-chrétienne, avec l'idée effectivement de déchristianiser la France. Il y a eu l'affaire des fiches qui a fait tomber d'ailleurs un gouvernement qui a heureusement permis du coup de donner une loi un petit peu d'apaisement par rapport à ce qui était proposé, où on avait fiché absolument tous les officiers dans l'armée selon leurs pratiques religieuses. Il va à la messe, il fait élever ses enfants dans la religion, on l'a vu aller prier, etc. Il récite son bénédicité, etc. Donc c'était une véritable chasse aux sorcières, en particulier avec les congrégations religieuses qui échappaient à la loi des associations de 1901 qui garantissait la liberté d'association, sauf pour les congrégations religieuses qui devaient d'abord demander la permission à l'État avant de se constituer, en sachant qu'évidemment, le plus souvent, c'était refusé. Donc effectivement, c'est dans un contexte de volonté de déchristianiser la France qui a eu lieu effectivement au moment de l'époque révolutionnaire, avec ce culte de l'être suprême, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs le culte de la laïcité dont on fait peut-être preuve, puisque, voilà, madame, c'est peut-être là où vous vouliez en venir, puisqu'effectivement, nous avons eu un ministre de l'Éducation qui, à un moment, a voulu inscrire dans toutes les écoles une charte de la laïcité et rendre des cours de morale civique. Alors, qu'avant, il y avait le civisme, hein, ça s'appelle le respect, on n'a pas besoin d'être citoyen pour se respecter, hein, on peut se respecter tout court. Donc, remplacer, effectivement, et là, je vais peut-être rejoindre du coup la question de monsieur, justement, avec effectivement ce durcissement de la laïcité qui tend à devenir, alors, non plus a-religieuse, c'est-à-dire accepter qu'il y ait des religions et garantir l'exercice du culte, mais peut-être anti-religieuse, voire dans cet esprit de concurrence, puisque l'esprit de concurrence entre la religion, donc le pouvoir séculier et le pouvoir spirituel a toujours finalement été de mise, eh bien finalement peut-être de substituer une espèce de religion républicaine, de religion laïque, avec, pourquoi pas, alors là, évidemment dans le fantasme, mais un culte à la déesse raison, comme il avait été fait sous la Révolution française, avec les excès de Robespierre, que vous avez souligné, madame, où effectivement le culte de l'être suprême, qu'on n'osait pas nommer Dieu, surtout pas, mais qui présidait, qui était le culte de l'homme en fait, et cet homme
qu'on place sans cesse maintenant de plus en plus au centre, mais cet homme qu'on place, cet homme déshumanisé, peut-être qui n'est plus en relation avec rien ni personne, si ce n'est avec lui-même. Voilà.
صلوات على محمد وعلى محمد. Encore une fois, je remercie Madame Pinsar et Madame Amatullah Alavi de leur présence, de leur participation. Et on remarque qu'on a plus de questions que de réponses. Et ça dure depuis un moment quand même. Mais il faut poser les questions suivantes. Est-ce que la République d'aujourd'hui respecte le principe fondateur de la Constitution? Comment nous pouvons distinguer la différence entre le droit et un acte politique? Parce que il faut que je vous rappelle qu'en 1989, le Conseil d'État en France, il a donné le droit à la femme musulmane de porter le voile. Et donc c'est par un acte politique anti-musulman que l'interdiction du voile, elle est venue. Donc ce n'est pas une question de droit, c'est une question idéologique. Aussi, il faut rappeler que le rôle, quel est le rôle du musulman aujourd'hui face à la chose publique, face au droit? Quelle est notre dynamique aujourd'hui en tant que croyants, chrétiens, juifs, musulmans? Ce débat ouvre cette chose qui, malheureusement, nous apporte beaucoup de violence dans notre société. Et avant de vous donner deux informations importantes, je finis ce débat, cette conférence, par un monsieur que moi, personnellement, j'aime bien. Il a dit la chose suivante. Le développement graduel de l'égalité des conditions est un fait providentiel. Il en a les principaux caractères. Il est universel, il est durable. Il échappe chaque jour à la puissance humaine. C'est Alexis de Tocqueville, 1805-1859. Notre prochaine conférence, Inch'Allah, se tiendra le 28 avril 2017, le titre de la conférence, La communauté musulmane et sa diversité en Europe. Nos deux intervenants seront le professeur Abdallah Ben Mansour, président de la Fédération islamique en Europe, et le professeur Aboubakar Issoufou, qui va nous parler de l'islam africain, journaliste et docteur en islamologie. Deuxième information, demain, Inch'Allah, on a un rassemblement de soutien au peuple du Yémen, au Trocadéro, entre 16h et 18h. Encore une fois, merci de votre présence, et le président de l'université vous invite, après la fin de cette conférence, à un dîner. Merci à vous, salawat. Merci à vous.
Voilà, donc il est en vente dehors, vous pouvez l'acheter au prix indiqué, c'est ça? À 12 euros, voilà, 12 euros. Et puis je me permets de prendre la parole à l'occasion de l'anniversaire de la fête d'imam de Fatima Zahra, qui correspondait aussi à l'anniversaire de la naissance de l'imam Khomeini. Je voudrais donc dédier un poème à Fatima Zahra que j'ai composé pour... Fatima Zahra, c'est la petite fille du prophète, pour ceux qui ne savent pas, la fille du prophète, pardon. Et donc, à cette occasion, je voudrais vous dire un poème. Maintenant, ça y est, il est parti, parce que, bien sûr, c'est toujours... voilà. Alors... Ô parfum du paradis, ô beauté éternelle, vous embaumez les rêves et enivrez les nuits de solitude pour que toute crainte disparaisse. L'écho de votre souffle s'évanouit dans le sommeil. Veillez sur votre servante, bercez sa nacelle, elle chavire au fil de l'eau. Fatima, ô vous, dame des femmes de ce monde, sur le passage de qui nul ne lève les yeux pour ne pas souiller même l'ombre de votre silhouette, versez sur votre servante un océan de diamants égrenés par la dentelle du temps éternel. Fatima, Fatima, vos souffrances s'inscrivent dans le livre de Al-Obeit, au chevet de Hossein et de Hossein et de Hassan, ces deux perles du paradis cachées sous le manteau de Lord Ali. Avec votre père, le saint prophète, et votre époux, l'imam Ali, que le salut de Dieu soit sur eux tous. À chaque instant, vous apaisez les douleurs en fermant le calice des linceuls pour que s'ouvrent les portes du palais divin. Fatima, Fatima, votre nom caresse les fleurs de celles qui pleurent. Le voile de votre pureté illumine l'océan de lumière, effleure les chevelures rebelles de celles qui emprisonnent djinns et anges. Ô Fatima, divulguez ce parfum divin dans une supplication généreuse et que le ciel même en rougisse d'envie.